Bonjour Alain Le Gougec et bonjour à tous. Aujourd'hui, à l'occasion de la première représentation ce soir du Bénur de Robert Hossein et Alain Decaux au Stade de France, les Jeux du Cirque à Rome. Les Romains ne souhaitent plus que deux choses au monde, du pain et des jeux. Juvénal. D'histoire. Il y a 2000 ans, le poète latin Juvénal se plaignait de voir les Romains ne plus s'intéresser qu'à deux choses, le pain et les jeux du cirque. Comme si, après avoir été les acteurs d'une histoire qui avait fait de leur ville un empire, ils s'étaient résignés à n'être plus que les spectateurs de ces jeux qui, plusieurs fois par an, remplissaient le Colisée et le Circus Maximus, le grand cirque de Rome, qui pouvait accueillir jusqu'à 400 000 personnes. C'est dire l'importance que les Romains accordaient à ces jeux, auxquels venaient assister des milliers d'hommes et de femmes de toutes conditions, pour voir les combats de gladiateurs, les courses de chars, les pièces de théâtre et les chasses d'animaux sauvages, que l'on donnait les jours de fête dans tous les amphithéâtres et les cirques de l'Empire.
Au quatrième jour de la fête d'Antioche, nous pouvons célébrer le 64e jour des Jeux du Cirque.
Quand l'empereur entre, vous levez vos armes, vous le saluez, et ensuite vous lui parlez ensemble. Faites toujours face à l'empereur, ne lui tournez jamais le dos. Allez, et mourrez avec honneur.
Salle,
bonjour.
Vous êtes historienne, maître de conférences à Nanterre et spécialiste de l'Antiquité romaine qui sera ce soir d'actualité au Stade de France pour la première représentation du Bénur de Robert Hossein. Mais ça dans un stade qui est beaucoup plus petit que ne l'était le Grand Cirque de Rome, c'est ce que j'ai appris en vous lisant. 400 000 places, c'est dire quand même à quel point ces jeux, ce cirque, mais aussi les combats de gladiateurs, avaient de l'importance dans la vie quotidienne des Romains.
Oui, tout à fait. C'était, ils s'en déroulaient à des dates précises dans l'année, et à peu près tout le peuple de Rome assistait à ces représentations. Bon, ça ne fait pas à peu près tout le peuple de Rome, puisqu'il y a 1 million d'habitants à Rome, et que c'est vrai, il y
avait ça fait la moitié, presque.
Et c'est-à-dire qu'il y avait des places assises et des places debout, parce qu'il y avait beaucoup plus de places debout au sommet de ces édifices, et c'était à l'occasion de grandes fêtes que se déroulaient en particulier les courses de chars qui, à l'origine, avaient une signification religieuse.
Et avec des femmes qu'on voyait pas forcément partout, des esclaves aussi,
les
tout
enfants,
le monde était là.
Enfants,
ça avait une fonction d'intégration, ça avait peut-être aussi une fonction politique. Qui les organisait? Enfin, je suppose que les empereurs, il était bon d'y voir les empereurs.
Exactement. Un empereur qui n'assistait pas à ces spectacles était tout de suite déconsidéré parmi le peuple romain. Ça a été le cas en particulier de Tibère, qui n'avait pas de goût pour la foule en particulier, et qui n'y allait pas. Et la mauvaise réputation de Tibère vient de là, en fait.
Alors, ça avait une dimension également qui n'existait peut-être pas dans nos stades d'aujourd'hui, au Stade de France. C'est une dimension religieuse. Les Jeux étaient des fêtes religieuses d'abord et données en l'honneur des dieux, Catherine Sarr.
En l'honneur des dieux, il y avait dans le calendrier romain 6 périodes de l'année où il y avait des grands jeux qui étaient donnés, les uns en l'honneur de Jupiter, d'autres en l'honneur de Cérès, d'autres en l'honneur d'Apollon, etc. Et chacun de ces ludis, puisque ludis signifie les jeux, durait souvent une semaine ou 15 jours. Et pendant cette période, on honorait un dieu, donc Jupiter ou Cérès par exemple, et on lui offrait des sacrifices, donc on lui donnait de quoi manger en quelque sorte, mais aussi on le distrayait, on lui donnait des spectacles, et c'est effectivement la signification des jeux, qui en fait a disparu à l'époque impériale. On ne pense plus du tout aux jeux comme étant un acte cultuel, même s'ils le sont.
Alors les spectacles, c'était ces grandes courses de chevaux. J'étais très étonné d'apprendre aussi que dans ces jeux, eh ben, il y avait du théâtre, Catherine Salle.
Ah oui, oui.
Des acteurs,
il y avait des
comédiens,
des clowns, comédiens.
Même, en quelque sorte.
Oui, oui, il y avait toute une série de corps de métier, en quelque sorte, liés au spectacle, qui apparaissaient entre les courses de chars, ou même pour jouer des pièces de théâtre. Quelquefois, beaucoup de pièces de théâtre ont été données dans le Circus Maximus ou dans le Colisée.
Alors, ce que l'on retient surtout de ces jeux, eh bien, ce sont les courses de chevaux qui se déroulaient dans le Grand Cirque de Rome.
Tes chevaux sont très beaux, mais ils ne forment pas un ensemble. L'un d'eux ralentit les autres, celui de l'extérieur. Je crois qu'il devrait être à l'intérieur, afin de retenir les autres dans les tournants.
Tu as un œil perçant, ou as-tu acquis ta science ?
Dans le cirque de Rome.
Tu as vraiment conduit dans le grand cirque ? Dis-moi, mon ami, pourrais-tu faire courir mes quatre chevaux comme un seul ? Viens sous ma tente, te rafraîchir un peu, et tu me raconteras comment tu courais à Rome.
Citoyens, je vous accueille à ces jeux au nom de Tibère, notre divine empereur. Nous les dédions à sa plus grande gloire et à la gloire éternelle de Rome, qui pour vous est la seule patrie. Ave César !
Ave César !
Alors le cirque de Rome, il y avait des cirques dans tout l'Empire, Catherine Salle, vous le rappelez, mais c'était le plus grand. On ne voit plus, je crois, aujourd'hui.
Si, on voit l'emplacement.
L'emplacement.
C'est au bas du Palatin, dans la dépression qui est en bas du Palatin, où l'on a un très grand espace où il n'y a rien à l'heure actuelle, qui sert en particulier maintenant pour les manifestations politiques.
Oui.
C'est là où l'on a les grandes manifestations des Romains, se déroulent sur l'emplacement du Circus Maximus.
Des Romains d'aujourd'hui,
vous voulez dire. D'aujourd'hui, je veux dire. Oui, oui, on le voit quelquefois aux actualités télévisées. Ils sont dans un très grand espace, et c'est le Circus Maximus.
Alors, ce cirque, il n'a pas été installé n'importe où. Je crois que, en fait, c'est à l'emplacement des tout premiers jeux qu'il y a eu à Rome. Il faut peut-être le rappeler,
oui,
Catherine Salle.
Les premiers jeux qui ont eu lieu à Rome datent de Romulus, puisque au moment où il fonde la ville, il était avec ses compagnons, les bergers qui l'ont accompagné, mais il n'y a pas de femmes. Or, pour que la ville dure, il faut des femmes et des enfants. Et par conséquent, l'histoire est bien connue. Il invite ses voisins, les Sabins, qui viennent avec leurs filles et leurs femmes, et au milieu des jeux.
Il les invite, oui, pour participer à des jeux, pour assister.
Pour assister à des jeux, en l'honneur d'un dieu Consus qui est un vieux dieu, et au milieu du spectacle, tous les hommes de Romulus, un signal donné, s'emparent chacun de la jeune fille qui est à côté d'eux, et l'emportent. Mmh. Bon, ça va déboucher sur une guerre, mais là aussi on sait comment cette guerre se termine, puisque les Sabines, donc devenues épouses des Romains, vont se mettre entre les deux armées en brandissant les enfants qui sont nés de leur union.
Et c'est pour ça, c'est sur le lieu de ce rapt, en quelque sorte, qu'on a construit le Circus Maximus. Alors, les dimensions sont absolument insensées. Hein. Vous écrivez 643 mètres de long, 124 de large, c'était gigantesque.
Gigantesque. Et c'est la construction du Circus Maximus est assez comparable à celle des autres cirques dans l'Empire. C'est-à-dire qu'on choisit un espace où vous avez un espace plat assez grand et des collines des deux côtés, des pentes des deux côtés où l'on peut mettre les gradins. Et c'est le cas justement de cette dépression qui est entre le Palatin et l'Aventin et où on va construire le grand cirque, puisque les gradins vont s'appuyer d'un côté sur les pentes du Palatin et de l'autre sur les pentes de l'Aventin.
Alors il faut voir comment il était. Enfin, on peut le voir dans le film de Weiler, dont on entend des extraits, le Ben Hur. Il y avait au milieu une espèce de mur qui s'appelait la spina.
La spina, oui, l'épine, donc l'épine dorsale en quelque sorte. Alors à l'origine c'était un simple mur, une butte de terre, puis c'est devenu très souvent un canal, c'est-à-dire qu'on a des murs qui à l'intérieur desquels il y a un canal, au centre il y a un obélisque, et vous avez toute une série de petites constructions qui vont orner cette spina, et aux deux extrémités de la spina on a les trois bornes, trois grandes bornes de pierre, et qui constituent l'espace.
L'endroit le plus
l'endroit
délicat,
le plus
tournant.
Difficile, oui. C'est ça, puisque les chars vont tourner à cet endroit-là. Alors ceux qui veulent gagner du temps vont essayer de passer le plus près possible de la spine, de la des bornes, mais à risque de faire voler leurs chars. Les chars sont très très peu solides. Et ceux qui vont faire un grand détour, évidemment, perdent du temps.
Et on tournait, je crois,
sept fois
autour. Oui. Alors tout ça, ça passionnait évidemment les Romains pour ces courses de chevaux qui étaient un peu l'équivalent de notre tiercé.
Combien veux-tu parier ?
Oui, qu'il annonce sa mise.
Je risquerai 1000 deniers.
2000 sur mes salaires.
2000 deniers pour moi.
Moi, 2000.
N'allons pas trop.
Nous savons que tu as de bons chevaux. Mais qui va les conduire ?
Le prince de Hur. Ben Hur.
Le prince de Hur ? On l'a envoyé aux galères il y a des années.
Il en est revenu ?
Honorons ceux qui vont courir pour nous aujourd'hui. Ils sont venus ici d'Alexandrie, de Messine, de Carthage, de Chypre, de Corinthe, d'Athènes, de Phrygie et de Judée. Pour le meilleur d'entre eux, le laurier de la victoire, la course commence.
Et on connaît la suite, ce sera la victoire de Ben Hur, le héros imaginaire du film de William Wyler dont on entend des extraits, le plus célèbre conducteur de chars, Orige comme on dit, en tout cas au cinéma. D'où venaient et qui étaient les Origes, Catherine Salle?
Le mot Orige est un mot grec qui signifie le conducteur de chars, enfin celui qui conduit un char, donc le cocher. En latin, on utilise aussi bien Orige que agitator, qui signifie aussi le cocher. Alors ce sont des hommes qui évidemment ont été entraînés dans des haras, et en particulier dans les haras très célèbres d'Espagne et du Portugal.
L'Espagne romaine.
Et oui, bien sûr. Oui. D'où venaient les plus beaux chevaux, d'ailleurs, qu'on utilisait pour les courses. Et ils sont à la fois donc d'excellents conducteurs de chars, d'excellents cavaliers, et ils savent se tenir en équilibre sur un char qui est très léger, très mobile, et ils sont attachés, enfin plus exactement les rênes des chevaux leur passent autour de la taille.
Oui.
C'est-à-dire que si le char
c'est
très dangereux, alors ils ont tous dans leur ceinture un petit poignard qui, s'ils ont le temps, va leur servir à couper ces rênes, donc à éviter d'être fracassés avec le char. Il y avait beaucoup de morts dans les courses de chars.
Alors, comme les jockeys d'aujourd'hui portaient les couleurs de leur équipe et sur lesquelles on pariait, et comme au PMU exactement, ça, les paris étaient considérables.
Oui. Il y avait quatre couleurs, il y a toujours eu quatre couleurs dans le monde romain. Il y avait les bleus, les verts, les rouges et les blancs. Et tout le monde pariait, de l'empereur au plus bas des esclaves, de l'enfant au vieillard, tout le monde pariait. Et ces couleurs correspondaient généralement à une classe sociale. C'est-à-dire que la couleur verte était la couleur de la plèbe, les plébéiens pariaient toujours sur les verts. Les aristocrates pariaient sur les bleus, et alors on a l'exemple effectivement tout à fait caractéristique de Néron, qui en tant qu'empereur aurait dû parier sur les bleus, mais comme il voulait être très populaire, pariait sur les verts, ce qui évidemment surprenait tout le monde.
Quel démago, hein.
Oui, c'était la démagogie pure.
Vous rappelez aussi une chose, c'est que les couleurs, d'ailleurs l'ensemble des courses de chars, ça correspondait aussi, ça représentait, c'est censé représenter, je crois, l'astre, le soleil tournant autour de...
C'est-à-dire que
tournant
on a
le cosmos,
une,
en tout cas.
Une signification cosmique dans la course de chars, puisque l'on dit que l'obélisque qui est au centre de la spina représente le soleil, autour duquel tournent les chars, et la couleur des chars correspond à quatre saisons, le vert par exemple au printemps, le blanc à l'hiver, etc., et aussi à quatre éléments. C'est-à-dire qu'il y a l'eau, l'air, le feu. Et donc, les chars tournent autour du soleil et on considère qu'au bout de 7 tours de l'arène, ils ont accompli le mouvement des astres, en fait.
Ah ouais. Alors, qui organisait ces jeux? Parce que ça coûtait des sommes colossales.
Ça coûtait extrêmement cher. Alors, à Rome, c'était l'empereur. Toujours l'empereur. Oui, ça, l'empereur avait pris la spécialité d'organiser les jeux. À l'époque républicaine, c'était les magistrats qui les organisaient et qui, faisant ça en début de carrière, avaient intérêt à dépenser le plus possible pour s'attirer les faveurs de la plèbe romaine et ensuite être élu à des fonctions plus élevées. Bon, c'est le cas de César, qui s'est complètement ruiné au moment où il a organisé les plus beaux jeux qu'avait eu Rome, alors qu'il était jeune homme.
Parce qu'en plus, on distribuait justement du pain en même temps, enfin de la nourriture.
De cadeaux. il y avait tout était imaginable. On faisait tomber du ciel des cadeaux ou des bons. Hein, il y en avait un des empereurs qui faisait tomber des bons. Alors ça allait d'un bon pour une maison, d'un bon pour une entrée au lupanard, d'un bon pour des chevaux. Enfin, il y en avait tout ce qui était possible était offert par ces bons qui tombaient du ciel, qui faisaient tomber du ciel, et chacun, évidemment, essayait d'en obtenir.
Alors, tout ça se passait dans le grand cirque de Rome, ou en tout cas, du temps de César, il n'existait pas encore.
Il existait déjà, mais il était plus petit.
Et alors, ça, c'était les jeux dans le grand cirque, les courses, effectivement, le théâtre, tandis que le Colisée, lui, était réservé au combat des gladiateurs qui, dans leurs écoles, étaient d'ailleurs aussi bien traités que les chevaux des courses de chars.
Vous voici à l'école de gladiateurs de Lentulus Batuatus. Un gladiateur est une sorte d'étalon. Il demande 1000 petits soins, dont vous serez huilé, peigné, rasé, massé. Des maîtres vous apprendront à vous battre en combat singulier jusqu'à la mort. Bien sûr, vous n'aurez pas à le faire lors de votre séjour ici, mais seulement lorsqu'on vous vendra.
Mettez-vous en ligne devant moi.
Voilà mes gladiateurs.
Alignez-vous.
Veuillez faire votre choix à présent.
Celui-là, là.
Marcellus Crixus pour le glaive court. Mais le trident est devenu un art plus rare de nos jours. Puis-je te conseiller celui-ci, un Éthiopien. Les Éthiopiens sont sans aucun doute les maîtres du trident.
Si deux hommes se couchent et refusent de continuer le combat, votre entraîneur devra leur couper la gorge comme à des poulets. Nous ne voulons pas de trucage.
Et oui, c'était la dure vie des gladiateurs, en tout cas dans cet extrait du film Spartacus, gladiateurs qui étaient vendus un peu comme des bêtes de somme. On y reviendra, mais de quand d'abord les premiers combats de gladiateurs qu'on appelait, je crois, les Munera. Hein,
oui, on pense que ces combats ont existé à l'époque des Étrusques et que c'était les combats auxquels on obligeait les prisonniers de guerre de faire autour du bûcher sur lequel on brûlait un général mort. Et donc, les prisonniers de guerre étaient obligés de combattre entre eux et de se tuer mutuellement. Et on pense que l'on a là l'origine des combats de gladiateurs. Bon, c'était pas admis par tout le monde, mais c'est très vraisemblablement l'origine.
C'est pas proprement parler une fête, on peut pas dire, ni un jeu du cirque, puisque c'est pas dans le cirque.
Non, c'est tout à fait différent, ça n'intervient pas du tout dans le cadre des ludis, des six grands ludis de Rome annuels. Il y a d'ailleurs, il faut bien comprendre qu'il y a très peu de combats de gladiateurs. Ça coûte extrêmement cher parce que il y a non seulement les hommes, il y a les animaux, parce qu'on fait aussi des chasses, c'est-à-dire des gladiateurs.
Oui, exactement. Le matin, je crois que c'était les animaux.
Chasses, oui. C'était les chasses. Alors, on reconstituait sur l'arène le paysage dans lequel vivaient les animaux, c'est-à-dire qu'on faisait une forêt, une savane, un désert, et les animaux étaient là, et donc les gladiateurs essayaient de les attraper, de les tuer. On a beaucoup de mosaïques qui représentent cela. Bon, il y avait aussi des combats d'animaux entre eux, mais là, et ils ont eu quelquefois des problèmes. En particulier, les éléphants, pour les Romains, ont toujours été des animaux extraordinaires. Et ils avaient imaginé de faire combattre des éléphants. Et les éléphants ne sont pas des animaux très très belliqueux. Et quand ils étaient affrontés à des lions ou à des tigres, ils avaient plutôt tendance à reculer. Et ces éléphants, finalement, on a abandonné l'éléphant pour les combats de bêtes.
Et puis aussi, donc, l'après-midi, les combats entre des gladiateurs. D'où venaient... Quelle était l'origine sociale de ces gladiateurs? Vous dites que c'était essentiellement souvent des condamnés à mort, qui n'avaient plus rien à perdre. En fait.
Alors, c'est-à-dire que les condamnés à mort, il y en avait que l'on obligeait à se battre dans l'intermède, ce qu'on appelait l'intermède de midi. Entre les chasses du matin et les combats organisés d'après-midi, il y avait toute une période pendant lesquels on faisait entrer tous les condamnés à mort de la ville, qu'on avait gardés en provision de cela, et on les obligeait à se battre entre eux. Ils étaient, et alors on avait derrière eux des véritables gladiateurs qui les poussaient avec des piques, avec des flammes, pour les obliger à combattre entre eux. Sinon, les gladiateurs proprement dit étaient généralement des esclaves, quelquefois des hommes libres qui, vivant dans une misère absolue, trouvaient finalement que c'était plus agréable d'être gladiateur avec les risques que ça comportait que de mourir de faim.
Vous parlez même de gladiateurs femmes.
Oui, il y a des gladiatrices. On a retrouvé récemment en Angleterre le cercueil d'une gladiatrice. C'est indiqué dessus et c'est vrai que Juvénal en particulier se moque beaucoup des gladiatrices parce qu'il estime qu'elles ne savent pas, enfin, qu'elles n'ont pas la possibilité de se battre, mais d'après ce que l'on en sait, elles pouvaient se battre entre elles probablement comme des hommes.
Il y a même quand même des empereurs qui sont descendus dans l'arène.
En particulier l'empereur Commode, hein, que l'on voit dans Gladiator, le film Gladiator. se battre.
C'était vrai, ça.
Ah oui, oui. Parce que il estimait qu'il était une sorte d'Hercule revenu sur la terre, et donc il adorait les combats de gladiateurs. Et les mauvaises langues disaient d'ailleurs que son père véritable n'était pas l'empereur Marc Aurèle, mais était un gladiateur que sa mère avait beaucoup apprécié, et il paraît qu'il ressemblait trait pour trait à ce gladiateur.
Mais c'est scandaleux, ça, parce qu'on imagine mal un gladiateur tuer l'empereur, donc il gagnait à tous les coups.
Probablement. Hein.
Alors, ça se passait. Alors, il y avait aussi différents types de gladiateurs, les samnites, les thraces, les
rétières, ce sont ceux qui sont tout nus, avec un filet et un trident.
C'est ce qu'on entendait dans l'extrait
tout à l'heure. Dans le trident. Chaque catégorie de gladiateurs a des armes particulières. Oui. Alors, on ne peut pas entrer dans le détail parce que c'est très complexe, mais il y a la taille de l'épée, il y a le nombre de, il y a les jambières ou non, les brassards ou non, les casques ou non. Et la règle est de toujours opposer deux gladiateurs appartenant à des groupes différents. Alors en particulier le fameux rétière est tout à fait spectaculaire parce que il n'a pas d'arme du tout, mais avec son filet, il tente d'emprisonner le gladiateur très armé qui est en face de lui et de le percer avec son trident.
Alors tout ça se passait dans les amphithéâtres, dont le plus connu bien sûr c'est le Colisée de Rome. Lui on le voit bien encore aujourd'hui. Pourquoi le Colisée? Parce qu'il était grand?
Non, pas du tout. C'est parce que le Colisée a été construit à l'emplacement du bout de la maison, de la fameuse maison dorée de Néron, la Domus Aurea, et là se trouvait une...
Après sa mort,
bien sûr. Là se trouvait une statue colossale du soleil ayant la tête de Néron. Elle mesurait 33 mètres, elle était quand même très... très, très haute, et donc on a pris l'habitude, c'était un Colosseo, c'était cette statue colossale, et le nom est passé, d'ailleurs en italien c'est Colosseo, c'est pas Colisée, en français oui nous avons Colisée, mais à Rome vous trouvez Colosseo.
Parce qu'il était, il était gigantesque, hein, 500 mètres de circonférence. Vous dites même d'ailleurs que vous dites pas parce que vous êtes sceptique là-dessus, je le sais. Non seulement il y a des combats de gladiateurs, mais on dit qu'il y avait des combats navals. Ça, c'est insensé quand même.
Alors ça, les combats navals, les naumachies ont été très appréciés des Romains. Ça consistait à représenter une bataille navale ayant existé réellement. Par exemple, la bataille de Salamine. Ou la bataille d'Axium. Donc on mettait face à face les deux flottes avec le nombre volume de navires, avec dessus des esclaves qui finalement se tuaient les uns les autres. Et donc, même si ces navires étaient de taille réduite, je ne vois pas comment, dans le Colisée, on aurait pu faire entrer tous les navires qui avaient participé à la bataille de Salamine, et d'autre part, le tirant d'eau n'était pas là. Donc, on sait que pour d'autres naumachies, les empereurs ont utilisé des lacs ou des grands bassins, donc ça semble beaucoup plus vraisemblable.
Alors, il y avait aussi une chose extraordinaire, c'est qu'il y avait une espèce de toile pour recouvrir, et qui était d'ailleurs manipulée par des marins romains, pour recouvrir le Colisée.
Et oui, pour le soleil, bien sûr, et éventuellement pour la pluie. Donc, cette toile énorme, colorée d'ailleurs, avec du rouge, avec du rose, beaucoup de couleurs, était manœuvrée par la flotte de Misène. C'est-à-dire qu'on faisait venir les marins de la flotte de guerre romaine qui était basée à Misène, et ils manœuvraient ces toiles. Et d'ailleurs, quand on visite le Colisée, on voit tout à fait au haut du Colisée, on a des grands pieux qui sont fixés tout autour, et c'était ceux qui retenaient cette toile. Bon, on ne sait pas très bien comment, en fait, on l'a montée jusqu'en haut. Il y a beaucoup d'hypothèses possibles.
Il y avait beaucoup de gens au Colisée ?
Ah oui, il y avait au Colisée, il y avait 450 000 personnes.
Alors, ça c'est le grand cirque, c'était moins. Mais effectivement, je crois qu'il y avait une foule considérable, et encore toutes les classes sociales.
Toutes les classes sociales. Et toujours, comme dans tous les édifices de spectacle, des classes sociales qui se différenciaient par leurs costumes. Ce qui fait qu'on avait absolument toute la société romaine par cercles concentriques, blanc, brun, couleur, qui représentaient les classes sociales.
Oh, si tu savais ce qu'est le Colisée, l'Espagnol! 50 000 Romains, les yeux rivés sur chaque mouvement de ton épée, t'encourageant à mettre ce tueur à mort. Le silence avant que tu frappes, et le bruit lorsque tu l'as fait, il éclate, et il s'élève soudain, comme si tu étais le dieu du tonnerre lui-même.
Tu étais gladiateur?
Oui, je l'étais. Je n'étais pas le meilleur parce que je tuais plus vite. J'étais le meilleur parce que la foule m'aimait. Gagne la foule, et tu gagneras ta liberté.
Je gagnerai la foule. Je lui donnerai quelque chose qu'elle n'a jamais vu.
C'est la foule, c'est le peuple, Catherine Salle, qui décidait de la vie ou de la mort des gladiateurs.
Oui. En fait, il ne faut pas croire que tous les... qu'il y avait au moins la moitié des gladiateurs qui mouraient dans chaque combat. Un gladiateur est un sportif de haut niveau qui a coûté très cher à son entraîneur et il n'est pas inconcevable que la moitié de ceux qui combattaient sur le sable meurent. C'est-à-dire qu'il y avait un combat qui était réglé tout à fait de façon précise et quand un des deux gladiateurs était au sol, à ce moment-là, évidemment, il demandait... au spectateur ce qu'il fallait faire de lui. Alors, vous aviez plusieurs hypothèses, ou bien on le renvoyait dans les coulisses, enfin, il avait perdu. Bon, dans certains cas, on demandait la mort, mais c'était quand même pas tous les cas, sinon on aurait les propriétaires ne savaient pas.
D'autant plus qu'ils étaient extraordinairement populaires, eux, et les origes, les cochers,
tous les gens de spectacle étaient des vedettes,
des Zidane de l'époque.
Ah, c'était, oui, les Zidane, ou, oui, tout à fait, et les people de l'époque, on suivait leur carrière, on connaissait tout leur goût, les femmes se pressaient à la sortie des grands lieux de spectacle pour essayer de les conquérir. C'était véritablement des vedettes, alors que c'était des esclaves qui étaient condamnés à mourir quand même, presque tous. Malgré tout, ils avaient une popularité sans nom.
Dans la revue Historia, de ce mois-ci, vous racontez cette anecdote extraordinaire, c'est-à-dire dans la caserne des gladiateurs, on a trouvé deux corps ensevelis évidemment sous les cendres du Vésuve. C'était celui d'un gladiateur et d'une femme qui n'avait rien à faire là. C'est assez extraordinaire.
Et à Pompéi, où une femme de la bonne société de Pompéi, avec beaucoup de bijoux, d'ailleurs, de magnifiques bijoux, était venue rencontrer un gladiateur en cachette certainement dans la cellule. On les a trouvés tous les deux, donc pour l'éternité elle est liée à son amant, peut-être d'un jour.
Quand est-ce que se sont arrêtés, s'ils se sont arrêtés, d'une part les jeux, les courses de chars, et puis les combats de gladiateurs, Catherine Salle? Et pourquoi?
Dans le monde occidental, ce sont les chrétiens qui ont quand même beaucoup poussé à la suppression aussi bien des jeux du cirque que des combats de gladiateurs. Pour eux, c'était aussi condamnable. Ils étaient aussi condamnables.
C'était des fêtes païennes, d'abord.
C'était des fêtes païennes.
Des fêtes religieuses, mais païennes.
Savez, les anciens n'avaient pas le même jugement que nous. Ils pensaient que c'était mauvais, les chrétiens, parce que les courses de chars entraînaient la colère, puisqu'on se bagarrait sur les gradins avec son voisin s'il n'avait pas parié pour le même cheval ou pour le même gladiateur. Et les gladiateurs entraînaient le goût de la cruauté. C'est-à-dire que les chrétiens n'ont pas condamné les combats de gladiateurs parce qu'ils ont mis à mort des hommes, mais parce que les spectateurs étaient entraînés à la cruauté. C'est quand même assez curieux comme raisonnement.
En tout cas, les courses de chars se sont poursuivies dans l'Empire romain d'Orient, à Byzance.
Bien sûr, à Constantinople-Byzance, il y a l'hippodrome qui a aussi été, jusque pendant une grande partie de l'histoire byzantine, utilisé, avec d'ailleurs des révoltes tout à fait spectaculaires, comme la révolte Nikée, où des milliers de spectateurs ont été massacrés sur l'ordre de l'empereur.
Et même aujourd'hui, on peut dire d'une certaine manière qu'avec d'autres jeux, les grands matchs de foot,
tout à fait, c'est tout à fait cela. Hein? Oui, tout à fait, la même ambiance, si l'on peut dire, la même folie des spectateurs, parce que quand on parle de la folie des aficionados, enfin des tifosi ou d'autres amateurs de spectacle, eh bien ils sont les héritiers tout simplement des spectateurs.
Moins la mort des gladiateurs. Enfin, il y a le coup de boule de Zidane quand même.
Ah oui, là il aurait été éliminé par l'arbitre. Hein.
Merci Catherine Salle. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'Antiquité romaine publié chez Larousse, ainsi que du livre Les grands explorateurs, apparaître également chez Larousse. Et enfin, vous avez co-dirigé un livre qu'on attend beaucoup, formidable. J'en ai vu quelques extraits et qui sortira en octobre, Larousse des civilisations antique, donc en octobre chez Larousse. Et puis vous pourrez retrouver bien sûr peut-être aussi l'ambiance des jeux que vous pouvez voir en allant voir le spectacle Bénure de Robert Hossein et Alain Decaux au Stade de France à partir de ce soir. Vous avez pu entendre des extraits de films disponibles en DVD, Gladiator de Ridley Scott édité par Universal, Bénure de William Wyler chez Warner Home Video et Spartacus de Stanley Kubrick, un DVD disponible aux éditions Zone 2. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Philippe Duclos et Sandrine Laurent. Documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac.